Bonjour et bienvenue, c'est Comme un bruit qui court, le magazine de reportage du samedi sur France Inter avec des vaches et des poules dans tous les sons et dans tous les sens.
En direct du studio 511, une émission réalisée sans pression aucune par Hélène Biziot, assistée de June Loper, avec Nicolas Cazot à la technique aujourd'hui.
Cette semaine, c'est la grosse industrie. Non, l'agro-industrie. Dans le bocage normand, qui prend des petits airs de Sicile, et en Bretagne, où faut pas prendre les aviculteurs pour des canards sauvages.
On essaye de me faire passer pour un hors-la-loi. C'est complètement faux.
Du vent et du ressac au cœur de la baie de Morlaix, dans le Finistère Nord. Dans un petit village qui s'appelle Carantec.
Abattre des animaux sains à cause de quelques paperasses, c'est affolant, affolant.
Dites-moi, monsieur, c'est sérieux les bruits qui courent ?
Comme un bruit qui court, qu'il serait temps d'essayer autre chose. Autre chose que les incantations à la rigueur en attendant la croissance. En Espagne, par exemple, le gouvernement de gauche vient d'annoncer un premier budget pour, je cite, « inverser les cicatrices de l'austérité ». Au menu, encore à valider par le Parlement, hausse de 22% du salaire minimum, indexation des retraites sur l'inflation, 4 points d'impôt en plus pour ceux qui gagnent plus de 300 000 euros et une taxation des transactions financières. Et chez nous, Alexandra Mensaï nous le rappelait ce matin sur Inter, la récente étude de l'Institut des politiques publiques montre que les ultra-riches sont les grands bénéficiaires des mesures fiscales des budgets Macron. Les premiers de cordée, ces fameux 1%, gagnent 6% de pouvoir d'achat quand les 22% les plus modestes voient le leur reculer. À croire qu'en France, on en est toujours à favoriser les plus gros en espérant qu'ils entraînent tous les autres. Et il en va, semble-t-il, de même pour la fiscalité, comme pour l'agriculture. Plus c'est gros, plus ça passe, au mépris souvent des conséquences. Un exemple, Antoine, après la ferme des 1000 vaches, c'est la ferme des 30 000 poules qui se prépare en Bretagne.
Si c'était la seule, Give, mais celle de Carantec est emblématique. Et sous couvert de poules et œufs plein air, c'est l'agrobusiness qui est en embuscade.
Si, et quand on veut faire autrement en agriculture paysanne, par exemple, c'est une autre paire de manches. Charlotte nous emmène rencontrer Gabriel Dufis, pas un pourfendeur de l'agrobusiness, mais juste un paysan bio qui vit dans la peur de l'administration.
Pression, coup tordu et omerta, c'est une histoire digne d'un western spaghetti que l'on va vous raconter. Gabriel Dufis et sa femme Tomomi sont éleveurs à La Roussière, dans l'Eure. Un tout petit village, un tout petit élevage de quelques bêtes. Mais depuis 7 ans, suite à un contrôle sanitaire, ils ne peuvent plus vendre ni leur lait ni leur fromage et les vaches ont échappé de peu à l'abattoir. Pourtant, en 2016, le Conseil d'État a annulé ce contrôle qu'il a jugé irrégulier. Mais l'administration refuse toujours de lui rendre ses passeports bovins. Et Monsieur Dufis n'est pas le seul à subir les foudres des services sanitaires. En 2014, le troupeau d'Erfurdoyer a été entièrement abattu pour défaut d'identification. Jusqu'à la dernière bête, Blanchette, qui s'était échappée le jour de la saisie. Pourquoi un tel acharnement sur les petits paysans? Que se passe-t-il à l'ombre des pommiers? C'est ce que vous allez bientôt découvrir.
Jusqu'à 17h sur France Inter, comme un bruit qui court en Normandie et en Bretagne, agrobusiness contre agriculture paysanne, ça bouge dans les campagnes.
C'est la plus grave crise sanitaire qu'ait connue la France, la crise de la vache folle en 1996.
Suite à la crise de la vache folle, la France a renforcé les critères d'identification bovine.
Ils viennent pointilleux, mais à un point qui dépasse l'entendement.
Chaque animal doit posséder à l'oreille une boucle. Les naissances doivent être déclarées. L'éleveur doit tenir à jour un registre d'élevage. Les bovins possèdent un passeport et une carte verte.
Mais vous savez, il faut vivre ça, hein ?
Objectif, garantir la sécurité alimentaire.
Il y a toujours cette suspicion parce que vous n'êtes pas dans le moule de leur manière de voir les choses.
Lorsqu'un éleveur ne respecte pas ses règles, l'État intervient.
Il y a un acharnement contre les petits paysans comme si ça devait leur réveiller leur mauvaise conscience, quoi.
En l'absence de traçabilité, les viandes issues de ces bovins seront détruites dans les jours à venir.
Abattre des animaux sains à cause de quelques paperasses, c'est affolant. Affolant.
Aujourd'hui, les services sanitaires, c'est eux les rois, c'est eux les puissants. Donc il faut se plier à leurs exigences. Cet homme-là, à un moment, il a dit stop, stop, non.
Je lui ai dit, mais monsieur le maire, on est en Normandie ou en Sicile? C'est du chantage qu'on me propose là. Je ne vois pas pourquoi j'arrêterais mon exploitation pour avoir mes cartes rouges.
Ils sont sacrifiés pour l'exemple, on va dire. Ce qui fait que tout le monde tremble autour et personne ne relève la tête.
Allez, s'il vous plaît, devant.
Pourquoi vous n'êtes plus d'accord pour parler ?
En 20 ans, on a perdu la moitié de nos exploitations.
On a parlé de minerais en parlant de viande animale, etc. C'est bien révélateur des orientations de l'agriculture.
Guy Vanctil, Charlotte Perry, Antoine Chao.
Comme un bruit qui court.
Sur France Inter.
Il y a des poules là qui...
Ah ben, il y a une poule qui a eu 7 poussins là, oui.
Ils sont tout petits.
Ah oui, oui, là ils ont un mois et demi. Naturellement, ça grossit beaucoup moins vite que lorsqu'ils sont enfermés. Parce que là, ils mangent beaucoup de vers, d'herbes, de graines. Ils prennent leur temps pour grandir. Et surtout, ils sont en liberté avec leur mère. C'est la meilleure des choses. C'est à l'image de la ferme d'ailleurs. On peut entendre une jeune génisse là-bas, oui.
C'est les vôtres ?
Oui, c'est les miennes, oui.
Alors c'est marrant, quand on rentre sur votre ferme, parce que je me suis un peu perdue, alors je suis allée chez les voisins à droite, à gauche, c'est très différent, quoi. Ici, on rentre et on a l'impression d'être dans un petit coin sauvage. Les animaux sont en liberté, les choses poussent un peu comme elles veulent. Chez vos voisins, la barrière est bien propre, l'herbe est bien tendue. On voit tout de suite que c'est pas la même philosophie.
Ah non, mais tous les gens qui viennent ici me disent la même chose que vous. Sur une ferme bocagère, ça vit différemment, ça vibre différemment. Le fait d'avoir protégé les arbres, il y a un microclimat à l'intérieur de la cour et il y reste une atmosphère humide. Tous les arbres que vous voyez autour de vous, j'ai tout planté quand je suis arrivé il y a 35 ans ici. Quand je suis arrivé, il n'y restait que quelques pommiers qui étaient en train de mourir parce que c'était dans les années 70. Tout le monde fuyait la campagne et naturellement, plus d'arbres n'étaient plantés. Moi, j'ai fait le parti, quand j'ai fini mes études, de faire de l'agriculture bio. C'est certainement un peu plus difficile à mettre en pratique qu'avec l'agriculture chimique, parce que c'est vrai que la chimie, c'est très très pratique. Ça permet de ne pas beaucoup réfléchir. Mais le résultat à long terme, ce sont nos enfants, malheureusement, qui le paieront très fort. En tout cas, moi, je constate une chose, c'est qu'avec l'agriculture biologique ici, sur ma ferme, qui fait 4 hectares cultivables, je nourris 20 personnes pour toute la nourriture pour une année. C'est quand même pas négligeable. Je vais vendre tous les produits que je produis sur le marché de Bernay tous les samedis. C'est un bon équilibre. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi en France, l'agriculture biologique n'est pas autant encouragée.
Il y a un chat qui dort au soleil.
Il y a l'étable, il y a la cave aux légumes, la cave où on range le cidre et puis toutes les conserves. Ici, c'est la pièce où j'ai mon moulin à farine, où j'ai mon pressoir pour faire le jus de pomme et le cidre. Et là où je stocke aussi des légumes pour l'hiver parce que c'est une pièce qui est assez sèche. Avant que j'arrive, tout ce bâtiment-là, c'était des étables pour les vaches. Donc la ferme a été abandonnée et puis malheureusement... Toutes les terres ont été dispatchées entre les gros agriculteurs qui se les sont séparés. Donc moi, quand je suis arrivé et que j'ai cherché à pouvoir en avoir un petit peu plus grand en surface, je n'ai jamais eu de réponse positive. Vous entendez ? Ça serait bien une mésange, ça. Quand je suis arrivé là, il y avait des houp-houp qui venaient tous les ans.
Des houp-houp ?
Oui. On les entendait tous les matins, même dans la journée. Hop, hop, hop. Mais maintenant, c'est fini, tous ces oiseaux-là. Et puis les alouettes. Il y a bien longtemps que je n'ai pas entendu une alouette. Avec tous les pesticides qu'ils mettent dans les champs de blé, c'est sûr que quand elles passent sous le spray du pulvérisateur, il n'y a plus personne après. Hein.
Alouette, j'en dis alouette. Alouette, je n'ai plus mauvais.
C'est bon, les alouettes, ça rapporte pas d'argent, donc...
Je n'ai plus mauvais la paix.
Je n'ai plus mauvais la paix.
Et la paix. Alouette.
Alouette.
Ah, alouette, j'en dis alouette. Alouette, je n'ai plus mauvais.
Il y a toutes les oies qui sont couchées aussi. Alors vous avez des fruits, du maraîchage, des oies, des poules, et vous faites un peu d'élevage.
Oui, depuis 25 ans, j'ai acquis des vaches laitières de la race jersiaise, une race qui produit un très très bon lait pour faire du fromage. J'en ai 9 ici. Et puis j'en ai d'autres dans la cour par là en bas. En tout, j'en ai 16 en ce moment. C'est beaucoup trop. Je ne peux pas nourrir tout le monde, donc là, elles sont en train de manger la partie dans laquelle je faisais normalement le foin.
Ma vache, ma belle vache.
Bon, on va aller les voir de près, je vais vous les montrer, mais c'est vraiment des vaches superbes, les jerseyaises. C'est des animaux avec lesquels on peut avoir une relation. Vous les appelez, elles viennent vers vous. C'est très gratifiant.
Ma vache, ma vache, ma vache, ma belle vache. C'est donc l'histoire d'un paysan qui avait rêvé toute sa vie de s'acheter une vache.
Oui, j'avais un nous.
Un jour, il a eu assez d'argent, il est allé au marché et elle était là. Elle l'attendait.
Ils sont très très curieux.
Sa vache. Oh, il a payé, il l'a attaché et il est rentré chez lui. Et pendant qu'il marchait, il rêvait, il chantait. Ouh, ma vache, ma vache, ma vache, ma belle vache. Vache, veau, lait, bœuf, fromage, œuf. Ma vache, ma vache.
Alors elles ont des boucles aux oreilles, vos vaches.
Ah ben, elles ont toutes leurs boucles aux oreilles. Mes animaux ont toujours été identifiés. Je les ai toujours déclarés à leur naissance. Quand ils sont venus, j'avais 5 animaux sur la ferme. Les 3 plus jeunes, je n'avais pas encore posé les boucles. Parce que, bon, quand ils sont tout petits, l'oreille, elle est plus petite que la boucle. Donc ça fait souffrir la bête. Donc dans la mesure où on ne peut pas les confondre, je peux reporter la pose de la boucle sans que ça nuise à l'identification de la bête. Donc j'étais dans cette situation-là. Il y en avait un de 4 mois, un de 1 an et un de 2 ans. C'était facile de les différencier. J'avais tous les papiers, tout était en règle. Dans ce cas-là, c'est ce qui est écrit dans la circulaire ministérielle. On pousse les boucles, point final. On ne cherche pas d'ennui. Mais apparemment, je n'ai pas eu le droit à ce traitement. Sans même me dire que mes animaux n'étaient pas identifiés, enfin qu'il y avait un problème, j'ai reçu 6 jours plus tard, par les gendarmes, le blocage immédiat de mon troupeau. Limitation de mouvement. Et application de l'article 221, vous avez 48 heures pour donner des informations, je ne sais pas lesquelles, sinon c'est l'abattoir.
Ma vache, ma vache, ma vache, ma belle vache.
Le pauvre paysan, quand on pense qu'il a économisé toute sa vie pour s'acheter une vache, et moi en une nuit je vais lui voler. Enfin, chacun son métier.
Voilà comment ça a commencé. Ils se sont acharnés et ils s'acharnent sur moi. Pour quelle raison? Pourquoi est-ce qu'ils sont venus ici pour me détruire? Ça, j'aimerais bien le savoir. Ça, j'aimerais bien le savoir. Là, c'est les dernières courgettes. Dès qu'il y a le gel, les courgettes, c'est fini.
Bonjour. Vous ramassez les haricots?
Oui.
Vous faites tout vous-même, tous les deux?
Oui. On fait tout, nous-mêmes, oui. On va aller à la maison là-bas. Le maire est venu voir Tony quand j'étais pas là. Et il a dit des choses assez inquiétantes. Il a dit que si j'avertissais la presse, je n'aurais jamais mes papiers. Tony lui a dit, écoutez, monsieur le maire, depuis 2 ans, on réclame nos papiers parce que la décision de justice nous les a donnés et on ne les a pas. Puis maintenant qu'on va avertir la presse, vous voulez nous interdire d'avertir la presse? Il y a quelque chose qui n'est pas clair. On va aller dans la petite maison là-bas. On peut se mettre dehors, je vais chercher la chaîne.
Ça, c'est votre maison?
Oui, ça, c'est ma maison.
Il y a plein de fleurs, c'est très sauvage.
C'est très agréable, c'est très reposant.
Il y a les jouets des enfants, les petits tracteurs.
Ils ont du temps ici. Hein.
Alors, monsieur Dufis, là, on est donc sur votre ferme, oui. À La Santelle.
Oui, oui.
C'est en Normandie, dans l'Eure.
Oui.
Et au mois de juin, vous nous avez contactés. Oui. Pour nous dire que vous nous écriviez avec les maigres forces qui vous restaient.
C'est vrai.
Pour nous faire part de votre situation.
Oui.
Donc depuis 7 ans, oui. Tout votre élevage est bloqué. Oui. Vous ne pouvez plus vendre vos animaux. Oui. Vous ne pouvez plus vendre les produits qui en découlent.
Non.
Comment ça a commencé?
Ça a commencé le 24 juin, un matin, un vendredi matin, à 10h. Je revenais de mon travail avec les vaches. Le téléphone sonne dans la maison. « Monsieur, nous sommes à votre barrière. Nous venons faire une inspection de votre ferme. » Et puis avec un ton assez agressif, En plus, je n'étais pas disponible parce que mon petit garçon de 1 an, c'est moi qui en avais la charge à ce moment-là. Donc je leur dis, écoutez madame, vous auriez dû me prévenir à l'avance pour que je prenne mes dispositions pour pouvoir vous recevoir. D'un ton agressif, elle me dit, vous acceptez ou vous êtes ? Bah, je dis, écoutez madame, je suis désolé, mais je ne peux pas vous recevoir, je refuse ce contrôle. Clac. Elle raccroche. Je regarde par la fenêtre, effectivement, la voiture était à la barrière, et la voiture s'en va. J'attends. Oh, j'ai pas attendu très longtemps. Une demi-heure après, j'étais dehors avec mon petit garçon dans les bras, je passais là, et j'entends, hop, hop. Il y avait 3 gendarmes à la barrière qui me demandaient de venir. À ce moment-là, la chef de service de la DDPP me dit « Si vous avez rien à vous reprocher, laissez-nous rentrer !» Et j'ai fait l'erreur de les laisser rentrer. Alors là, c'est devenu infernal. Elles se sont dirigées là, il y avait les jeunes vaches qui étaient là. Elles voient aussitôt que les boucles ne sont pas aux oreilles. Elles me disent « Ils ne sont pas bouclés ?» Ben non, je ne les ai pas encore bouclés parce que ça fait mal aux oreilles, mais j'ai les boucles dans mon bureau. Et de toute façon, elles sont identifiées, j'ai les cartes roses.
Parce que c'est obligatoire hein, d'identifier les animaux pour la traçabilité.
C'est obligatoire. Et moi, je ne suis pas contre ça. Au contraire, comme je fais de la sélection génétique et je fais de l'insémination, j'ai besoin de savoir l'identité de mes animaux. Parce que sinon, je ne pourrais pas travailler correctement. Donc, l'identification, je ne suis pas contre, pas du tout. La seule chose, c'est que je différais la pose des boucles tant que les animaux étaient différenciables. Bien évident que si j'avais un troupeau de 100 animaux, je ne pourrais pas pratiquer ça. Ils font le tour de la cour, ils prennent plein de photos, et ils repartent, sans fermer la barrière, sans dire au revoir, comme des voleurs. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? J'attends. Je n'ai pas attendu longtemps. 6 jours après, les gendarmes arrivent, avec une lettre. J'ouvre la lettre. Blocage immédiat de votre troupeau. Vous devez fournir sous 48 heures des informations d'identification, lesquelles, j'en suis encore à me demander lesquelles, sinon c'est abattage immédiat. Donc, à ce moment-là, je prends peur, et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, parce que j'avais déjà entendu parler qu'ils avaient abattu des animaux chez des éleveurs.
Le voleur s'approche de la fermette. Lorsqu'il sent une présence, il se retourne. Où est-ce que tu vas comme ça, voleur ?
J'allais voler la vache du paysan.
Très bien. Moi, je prendrai son âme et je boirai son sang.
Je dis, ben, il faut qu'on fasse un recours en justice. Alors là, ça a commencé. On était en 2012 et c'est arrivé au Conseil d'État en 2016, donc 4 ans. Et c'est le Conseil d'État, c'est la plus haute juridiction de France. Pour résumer, il a dit, il n'y a pas photo. Le contrôle est invalide, irrégulier, n'a plus aucune valeur. Donc la sanction est annulée.
On dit qu'un homme averti en vaut 2. Le paysan se réveille. Il descend dans la cour avec un bâton et une gousse d'ail. Avec le bâton, il frappe le voleur. Avec la gousse d'ail, il effraie le vampire. Et il peut garder sa vache, ses rêves et sa chanson. Ouh, ma vache, ma vache, ma vache, ma belle vache.
Donc quand j'ai eu cette décision-là en février 2016, je me suis dit, bon, ben maintenant, ça va se régulariser. Et aujourd'hui, 7 ans après, il refuse, malgré la décision du Conseil d'État, de me donner mes papiers d'identité. Je n'ai toujours pas la possibilité de vendre mes animaux. Ils font tout ce qu'ils veulent. Je n'ai rien à dire. Voilà. Et puis moi, après le Conseil d'État, je me suis dit, bon, ben maintenant, c'est gagné. J'ai réinséminé 3 jeunes génisses qui m'ont donné la dernière. 3 veaux. Moi, je pensais avoir mes papiers pour pouvoir vendre les bêtes. Impossible d'avoir mes papiers. J'ai donc dû traire, l'année dernière, 4 vaches. On travaillait tous les jours à faire traite matin et soir. Mais c'était infernal, infernal. On a tout transformé en fromage pour ne pas jeter le lait. Donc tout ça, c'est du travail avec aucun revenu. Ça va qu'on se contente de peu. J'ai racheté une bonne ceinture. Mais si je continue à la serrer, la ceinture, il va plus y avoir de bonhomme à l'intérieur. Hein.
Et là, il y a votre voisine qui est arrivée tout à l'heure.
Je suis Mme Bouchard. Mon mari les a appelés, la DDPP, là. Il leur a demandé ce qu'il fallait faire pour pouvoir vendre les animaux, faire ce qu'il y avait possible de faire. Tout ce qu'ils ont réussi à lui répondre, c'est où il fallait faire abattre les animaux, ou alors il fallait les placer. Mais quand ils viennent dire qu'il faut placer les animaux, ça veut dire qu'il faut les cartes roses pour les emmener. Donc c'est un non-sens de leur part.
Parce qu'il ne les a pas, monsieur Dufy.
Bah, exactement. Donc ils racontent n'importe quoi aux gens. Et je trouve lamentable qu'un organisme public pousse quelqu'un à en arriver à ce stade-là. La DDTP fait peur aux éleveurs. Et certains éleveurs, même avant un contrôle, se sont déjà suicidés. Eh oui, il y a pas très longtemps, il y a un an ? Un an et demi, oui. Il s'est mis devant son tracteur, il a mis son tracteur en route et le tracteur est passé sur lui. Et quand ils prennent un agriculteur en grippe, en fait, ils vont jusqu'au bout, quoi. Et je sais pas, les gens ne se rendent pas compte de ce que les agriculteurs peuvent vivre à cause de ces normes. Ils se rendent pas compte.
Aujourd'hui, vos revenus, à peu près, c'est combien, du coup, pour faire vivre votre famille ?
Je touche 300 euros de retraite par mois. Je bénéficie de 180 euros par mois de primes d'activité. En hiver, j'en ai pour 400 euros par mois de nourriture pour les bêtes, parce que je n'ai pas à donner à manger. Alors, les 180 euros de la prime d'activité, ça ne suffit même pas pour nourrir les vaches. En hiver, j'en ai pour 7 heures par jour, rien que pour m'occuper des vaches, apporter des seaux, apporter de la paille, apporter du foin dans la boue, dans la boue, dans la boue. Et puis, tous les ans, on est tous pareils, on prend un an, et moi, je vais bientôt avoir 70 ans. Alors, on ne peut pas m'en demander quand même plus que ce que je peux fournir, non ? Moi, j'ai moins de force qu'avant, c'est sûr. Et c'est devenu un bagne au niveau du travail. Et puis, ma femme, des fois, elle ne comprend pas. Alors, des fois, elle perd les pédales, alors ça crée des tensions. C'est infernal, ces choses-là, vous savez. S'il y a beaucoup d'éleveurs qui se suicident, c'est parce qu'avec le travail, avec le travail, avec le travail, ils n'en voient plus la sortie. Le travail vous intoxique complètement le cerveau. Et puis il arrive un moment, vous dites, non, ça, je veux en sortir. Et puis le cas, il se suicide. C'est plus une vie, c'est devenu un enfer.
Ils sont sacrifiés pour l'exemple, on va dire. Leurs animaux sont sacrifiés pour l'exemple, qui fait que tout le monde tremble autour et personne ne relève la tête.
Ma silhouette se dessine dans la lueur de l'aube jaune, déchire le relief, surplombe un champ, pousse des clones et des quintaux de blé. Sur cette plaine peu féconde aux terres stériles, il me prend de vous haïr une seconde comme la minute et les heures. Je pardonne même aux ingrats qui m'ont ligoté là, perché sur un silence et les bras. Cloué à vos peurs, vous exhibez ma dépouille pour effrayer les corbeaux qui me narguent et me souillent. Qui picore vos semences, pourtant je protège vos récoltes. Grimaçons à jamais comme un fou désinvolte. Nombre du vieux moulin se dissipe, je bénis la farine. Moi, le disciple crucifié couronné d'épines.
Ils se sont acharnés et ils s'acharnent sur moi. Pour quelle raison ?
Sous la pluie, le vent et à travers le temps de toutes les batailles, mon fin spectre de paille effraie les pénitents. Même les innocents battent tous joie.
Moi, je reconnais que c'est bio quand je vais chez la personne qui vend le bio, quand je sais comment elle travaille, mais pas tout ce qu'ils vendent dans les grandes surfaces. Bien sûr que je mange le produit à M. Dufis et ils sont très bons.
Vous n'avez jamais été malade ?
Jamais. Au contraire. Manger une tomate de chez M. Dufis et manger même une tomate ailleurs, une tomate de chez M. Dufis, elle a du goût. Même les fromages, je mange du fromage. Et le fromage est très bon. On peut le faire en raclette, on peut le faire de n'importe quelle façon, et c'est très bon.
Il n'a pas dérapé, c'est... Il n'y a pas de crime. On est à la limite du stupide. C'est quelque chose de... qui devrait même pas être soulevé. Et voilà, c'est la hiérarchie sanitaire qui s'est abusée de ses pouvoirs parfois. Voilà.
Alors, monsieur Dufis, au mois de juillet, c'est ça, 2017, vous avez eu le soutien du maire,
oui,
qui a fait faire des tests génétiques pour essayer de vous sortir de cette affaire. Mmh. Les résultats de ces tests ne vous ont jamais été communiqués. Donc au mois d'avril, un tout petit peu avant, le maire, vous avez fait une lettre de soutien,
oui,
que j'ai ici. Vous pouvez me la lire ?
Je sous-signais Jean-Pierre Gibourdel, maire délégué de La Roussière, atteste que l'état de Monsieur Dufis, Gabriel, agriculteur domicilié au hameau de la Centelle à La Roussière, présente une dégradation tout à fait alarmante et préjudiciable. Il y a urgence à rétablir une situation correcte en permettant le placement des animaux. Je n'ai jamais eu de doute sur son honnêteté ni sur l'identité de ces vaches. Je souhaite qu'une issue rapide soit apportée pour régulariser cette situation. Fait à La Roussière, le 14 avril 2017. Jean-Pierre Gibourdel, maire délégué de La Roussière.
La première fois que j'ai eu le maire au téléphone, bon, il prenait plutôt votre défense en disant que vraiment à la DDPP, ils avaient des œillères, qu'ils avaient une dent contre vous. Je l'ai rappelé pour convenir d'un rendez-vous. Et là, il a changé de discours. Je lui dis, écoutez, c'est pas grave, c'est juste pour me parler un petit peu de cette lettre. Et là, il me dit, mais je n'ai jamais écrit de lettre. C'est un faux, je vais informer la sous-préfecture.
Il va loin.
Mais c'est bien ça, c'est bien ce que je pensais. C'est lui qui l'a signé. Je peux pas avoir la signature de monsieur, je peux pas la corriger. Je peux pas avoir le tampon de la mairie. Enfin bon, j'ai l'original ici. Bon. Je pense qu'il a reçu des menaces. En décembre 2016 ou janvier 2017, monsieur le maire, un lundi, me téléphone et il me dit, voilà, monsieur Dufis, on m'a conseillé de ne plus m'occuper de vous. Qui ça? Il ne me l'a pas précisé. Vous vendez tous vos animaux et vous avez vos cartes roses. Alors là, sous forme de boutade, je lui dis, mais monsieur le maire, on est en Normandie ou en Sicile? C'est du chantage qu'on me propose là. Je ne vois pas pourquoi j'arrêterais mon exploitation pour avoir mes cartes roses. Donc voilà où on en est. On en est dans du chantage, dans des menaces. Et je pense que maintenant, le seul personne officielle, entre guillemets, qui était à me soutenir, c'était le maire. Et là, ils sont en train de faire très peur au maire pour qu'il laisse tomber. Et je comprends monsieur le maire. Entre moi et sa tranquillité, il va choisir très vite.
Le maire, il est éleveur aussi. Hein.
Oui, bien sûr, il est éleveur. Des fois, j'ai peur. Hein. J'ai vraiment peur qu'il fasse n'importe quoi, qu'il déboule avec des gendarmes. Ils peuvent dire, monsieur Dufis est devenu trop fatigué, il ne sait plus ce qu'il fait, il faut le protéger, on va l'hospitaliser d'office. Puis pendant ce temps-là, ils emmènent tous les animaux. Ils veulent que je disparaisse. Peut-être parce que ma ferme est un peu expérimentale, je démontre que l'on peut vivre avec de l'agriculture biologique. Alors peut-être que ça peut en déranger certains. Et avec l'identification, ils savent exactement tout ce que vous faites sur la ferme. Et le moindre faux pas, ils bloquent tout. Les éleveurs, c'est ce qu'il faut, c'est qu'ils disparaissent. Donc moins il y a de fermes à contrôler, moins ils ont de travail. Il y a toujours à peu près le même nombre d'animaux parce que deux fermes de 50 vaches disparaissent, une ferme de 100 vaches prend la suite. Sauf que les conditions de vie, les conditions d'élevage et la qualité des fermes avec 100 vaches ou plus est certainement pas la même que lorsqu'il y en avait que 50 ou 10.
La ferme des 1000 vaches dans la Somme est une ferme usine.
L'herbe des pâturages, pour elle, c'est terminé.
1750 bovins dans cette méga ferme, dont l'étable principale mesure 230 mètres de long.
Des images impressionnantes qui évoquent plus le travail à la chaîne dans les usines que la paysannerie.
Les agriculteurs veulent gagner décemment leur vie et je crois qu'ils la gagneront, bien sûr, avec les industriels.
On traite en moyenne 230-240 vaches à l'heure. On va produire à la traite de midi à peu près 8000 litres de lait.
Cette exploitation suit l'exemple des fermes allemandes de taille XXL, 1750 bovins. C'est 35 fois la taille moyenne d'une exploitation française.
Là, vous sortez à la barrière à gauche. Vous faites 1,5 km, vous arrivez dans le centre du village. L'église est à gauche, la mairie est à droite.
Très bien, bah je vais voir le maire. Au revoir. Bonjour. Il est été. Excusez-moi, bonjour. Je cherche la mairie. Ah, c'est derrière.
Chez moi, si vous avez là.
Ah, monsieur Gibourdel.
Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Donc, oui, je voulais que vous m'ordonniez les papiers. Parce que monsieur le sous-préfet est au courant. Il va y avoir des ennuis.
Alors, on va peut-être pouvoir se mettre dans la mairie.
Oui.
Alors, ça c'est le papier. Je sous-signais Jean-Pierre Gibourdel. Vous vous souvenez pas de m'avoir écrit ce papier? Bah, c'est important quand même, parce que monsieur... Ça se voit que ça n'a pas été trafiqué. On voit bien que c'est le cachet de la mairie. Vous voyez? C'est le cachet de la mairie, votre signature.
Non, c'est bon, vous pouvez y aller.
Vous, vous dites que c'est un faux.
Allez, s'il vous plaît, là-bas.
Parce que je comprends pas, la première fois qu'on s'est eu au téléphone, vous étiez d'accord pour parler.
S'il vous plaît.
Pourquoi vous êtes plus d'accord pour parler? Si je pose le micro, vous pouvez me parler, parce que je comprends pas. Mais pourquoi? Parce que vous l'avez soutenu, monsieur Dufis, pendant longtemps. C'est vous qui avez fait les tests génétiques.
C'est bien.
Qu'est-ce qui s'est passé tout d'un coup? Vous vous enfuyez pas comme ça? Pourquoi vous secouez la tête? Et hop. Et sa camionnette, il est parti.
Comme un bruit qui court.
Il est parti. La seule chose qu'il a dite, c'est le sous-préfet est au courant. Vous allez avoir des problèmes.
Comme un bruit qui court.
Alors on va être obligé d'appeler le sous-préfet.
Sous-préfecture de Bernay, bonjour. Ne quittez pas, madame.
Je vous la passe.
Allô?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour, oui. Honnêtement, moi, je veux dire, j'ai aucun élément de plus à rajouter sur ce dossier. Je n'ai pas d'éléments.
Mais alors, vous pourrez peut-être m'éclairer, parce que moi, j'ai rencontré le maire de La Roussière, monsieur Gibourdel.
Oui, oui.
Il a eu une attitude un petit peu étrange. Il m'a menacé. Il m'a dit que j'allais avoir des problèmes, que le sous-préfet était au courant.
Ah non, mais le sous-préfet, il menace personne. Non, 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 non. Il menace personne. Ça n'engage que les paroles de monsieur le maire. L'État, la sous-préfecture ne menace personne, etc. Non, non, non. J'ai pas souvenir de cette lettre. Moi, non, je connais pas cette lettre-là. Mais de toute façon, c'est un dossier sensible, effectivement. Un dossier très sensible.
Qu'est-ce qui s'offre à lui comme solution? Parce que là, concrètement, c'est bête. À part les emmener à l'abattoir, il a pas...
Mais effectivement, c'est une des solutions. C'est une des solutions. Je comprends bien. Écoutez, moi ce que de mon côté, en tant que sous-préfet, ce que je peux faire à nouveau, que j'ai déjà fait, c'est de remettre autour de la table tous les acteurs par rapport à ce dossier, pour essayer de trouver, d'apporter des solutions. Donc moi, je suis prêt à refaire cette démarche, dans l'intérêt de M. Dufis. Voilà. Il faut que ce dossier puisse aboutir rapidement maintenant. Et puis les propos que tenait Monsieur le maire, moi je veux dire, Monsieur le maire est responsable de ce qu'il dit, et si vous a menacé, sachez bien que ce n'est pas du tout la conception de notre vision des choses au niveau de la préfecture, de la sous-préfecture, bien sûr.
D'accord. Il ne voulait plus me parler, moi il m'a semblé que c'était quelqu'un à qui on avait conseillé hein, de pas parler à la presse.
Non. Là, écoutez, je vous certifie que il n'y a aucune consigne donnée de qui que ce soit pour que bien ne puisse pas s'exprimer. Non, là, je suis là-dessus, je suis formel, je suis très clair là-dessus, très clair.
Très bien.
Allez, bonne journée à vous, merci,
au revoir. Au revoir. Vous avez compris, pour l'instant, la seule solution qui s'offre à Monsieur Dufis, c'est d'amener ses bêtes à l'abattoir, à ses frais, pour équarrissage. Mais le sous-préfet s'est engagé à trouver une solution, comptons sur sa diligence. D'autre part, Monsieur le sous-préfet nous assure qu'aucune pression n'est exercée sur qui que ce soit par les services de l'État. Ce n'est pas tout à fait le sentiment du journaliste Philippe Schaeffer, qui avait enquêté en 2014 sur l'affaire d'un paysan voisin. C'est la commune de...
Landeperreuse, une commune voisine de La Roussière, à quelques centaines de mètres à vol d'oiseau de la ferme de M. Gabriel Dufis. M. Oyer s'est installé ici pour planter un verger de plusieurs centaines d'arbres pour faire du cidre et du calvados. Et il n'a rien trouvé de mieux que d'avoir sous ses pommiers des vaches normandes pour entretenir son verger.
Et vous, donc, vous êtes...
Je suis Philippe Schaeffer, oui, je suis journaliste à Paris-Normandie et j'ai longuement enquêté sur cette affaire, celle qui concerne Monsieur Erfried Oyer, qui a vu son élevage, ses 23 bovins enlevés en vue de leur abattage. C'était un troupeau qui était contrôlé sur le plan sanitaire avec une prophylaxie à jour. En tout état de cause, on peut dire que ce troupeau ne présentait aucun risque.
Alors Alors pourquoi elles ont été abattues ?
Elles ont été abattues parce que l'administration a estimé que cet éleveur était rebelle, entre guillemets, et qu'il n'appliquait pas en temps voulu les normes qui exigent que tous les animaux soient parfaitement identifiés. Et suite à plusieurs relances de la part de la DDPP, elle a choisi le coup de force, à savoir l'enlèvement et l'abattage qui a suivi très rapidement de tous ces animaux.
Vendredi matin, à Landes-Péreuse, dans l'Eure, la direction départementale de la protection des populations a procédé à la saisie du cheptel d'un agriculteur. Les services de l'État estiment que la traçabilité qui garantit la sécurité alimentaire n'a pas été respectée. Les éleveurs estiment pour sa part être en règle.
Et vous alors, pendant que vous enquêtiez sur cette affaire, les services de la préfecture ont contacté la rédaction de votre journal?
Oui, car j'ai voulu savoir ce que t'es devenue, en particulier la dernière vache, celle qui s'était échappée, Blanchette. J'ai posé plusieurs fois cette question au service de la préfecture, qui a fini, au bout du compte, par appeler le journal, en lui signifiant que j'insistais beaucoup trop sur cette affaire et qu'il serait bien que je passe à un autre sujet.
Pourquoi ça les dérangeait ?
Cela l'a dérangé que l'opinion publique puisse avoir un jugement sur les pratiques de ces services de l'État. En l'espèce, elle ne s'inquiète pas trop de la réaction du monde paysan parce qu'ils ont peur à leur tour, en prenant la défense de ces petits paysans, d'être aussi dans le collimateur et qu'un jour on soit très exigeant sur les normes à respecter.
On arrive. Une petite maison en colombage, toute fleurie. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous, Alain ?
Les bêtes étaient enlevées et il y avait des flics autour. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Pour me tenir tranquille, moi j'étais... j'ai un rendez-vous le matin à 8h30 à la gendarmerie de Beauménil. Je suis allé, évidemment, il n'y avait personne. Et quand je suis revenu, j'ai vu des flics là. Et j'ai dit, oh là 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 là, il y a quelque chose qui se passe. Puis après, ma voisine m'a dit, vous ne pouvez pas vous imaginer... Le vacarme qu'ils avaient, ils ont tapé sur les bêtes pour les mettre dans les camions. Et puis ils sont partis dans un abattoir. C'était vraiment un coup tellement dégueulasse. Donc lundi après-midi, donc j'avais pas réagi 48 heures. Et puis donc les bêtes étaient abattues.
Pourquoi ils ont abattu tout votre troupeau ?
Vous savez, il y avait des contrôles des passeports, tout ça. C'est une employée du service vétérinaire. Et elle voulait enlever mes cartes parce que j'avais fait des déclarations trop tard. Alors j'ai pris son bras, vous me donnez les cartes et je l'ai foutu dehors. Non mais quand même, tout était en règle. Mais on voulait, à cause d'un retard, mais qu'est-ce que ça peut bien faire, retard des déclarations ? Il n'y a rien de criminel là-dedans. C'est absolument ahurissant. Les gens deviennent dingues, se suicident. À cause des conneries pareilles. Nous sommes des êtres humains, on ne va pas être traités comme ça, quoi. Voilà. J'ai fait une croix sur ces pauvres 23 bovins qui étaient en pleine forme. Je ne sais pas, autour de moi, il y a des agriculteurs qui ont un peu la même chose, mais jusqu'à présent, on n'a pas enlevé leurs bêtes. Ça, c'est... Et surtout pour les abattre. Voilà l'histoire.
Viens. Laisse aller, hein.
Je rentre.
Philippe, vas-y, vas-y. Ta tête. Voilà.
Philippe. Philippe Schaeffer, vous avez enquêté à l'époque sur cette affaire. Pourquoi il y a un tel acharnement sur Monsieur Dufy, sur Monsieur Oyer à l'époque ?
Parce que ce sont des éleveurs qui ne montrent pas l'exemple, qui ne sont pas soumis et qui osent dire ce qu'ils pensent tout haut par rapport aux excès de l'administration et l'application des normes qui, à terme, les feront disparaître, ce qui est déjà le cas.
à leur échelle, ils ne peuvent pas suivre leurs troupeaux comme des exploitants industriels. Ils sont dans un autre monde. Contrairement à ce que prétend cette administration, ils ne font courir aucun risque aux populations. Ils sont sacrifiés pour l'exemple, on va dire. Leurs animaux sont sacrifiés pour l'exemple, qui fait que tout le monde tremble autour et personne ne relève la tête. Il y avait bien évidemment à une autre époque beaucoup plus de solidarité entre les paysans qui se serraient les coudes contre les excès de cette administration. Ces paysans arrivaient avec leurs fourches et l'administration reculait.
Lève-toi paysan, mets ton pas dans le mien.
Abattre des animaux sains à cause de quelques paperasses, c'est affolant, affolant.
Et retrouve l'empreinte laissée par les anciens. Eux aussi, un beau jour, ont dit non à l'engeance.
Voilà.
Celle qui te ronge et pourtant tu ne cries pas vengeance. Ton honneur, ta fierté, même ta dignité. Les vautours qui tournoient n'ont de prise à serrer. Les vautours qui tournoient n'ont de prise à serrer. Sur l'autel de leur misère, le lait de la colère. Sur l'autel de la misère, le lait de ta colère. Sur l'autel de ta colère, le lait de leur misère.
Bonjour.
Bonjour.
Ça va?
Oui, ça va et vous?
Moi, je m'appelle Thierry Martin et je suis éleveur à Saint-Aubin-du-Ténay. Très près de chez Erfried, en fait, à quelques kilomètres, quoi. Bon, j'ai été syndicaliste agricole, hein, donc.
Ça?
À la Confédération paysanne, mais avant aux travailleurs paysans, aux paysans travailleurs, etc. Les chiffres sont parfaitement alarmants, quoi. C'est-à-dire que il y a un acharnement contre les petits paysans, comme si ça devait leur réveiller leur mauvaise conscience, quoi. C'est une survivance du passé qu'on aimerait bien détruire. Et moi, je crois qu'on est tellement en retard qu'on est déjà en avance. Ça veut dire que l'image qu'on renvoie et qui est appréciée du consommateur, c'est-à-dire d'une agriculture familiale, humaine, écologique, elle est discréditée par les pouvoirs publics, par l'Union européenne, qui ne veut pas investir dans ce milieu-là, qui préfère investir dans une agriculture industrielle à vocation exportatrice. Donc c'est là la source du problème du fils Oyer, de moi et d'autres, c'est que on est les parents pauvres, on est les bannis, alors que on représente une forme d'avenir pour l'agriculture européenne. C'est comme si on faisait moche dans le paysage, quoi. Alors tant qu'on est discret, bon, caché derrière nos haies, ça va. Mais dès qu'il y a un souci, il faut voir comment les gens s'acharnent, quoi. Et c'est important qu'il y ait des petits paysans qui survivent, c'est important qu'il y ait des petits paysans qui s'installent. Il faut qu'on fasse nombre pour contrecarrer cette politique dont on paiera le coût et qui sera un coût exorbitant.
Alors, pour ceux qui veulent soutenir la ferme de Gabriel Dufis, Charlotte, une manifestation et une pétition.
Oui, sur Mes Opinions, vous pouvez signer la pétition à l'adresse du préfet Liberté pour la ferme bio de Gabriel Dufis. Et mercredi prochain, le 17 octobre, rendez-vous à 14h, parking du Bel et Bas, à Évreux.
Mais pendant que ce coin du bocage normand vire au Far West pour préserver une agriculture paysanne, en Bretagne, Antoine, c'est un petit village qui résiste contre des poulets.
Une partie du village, et c'était contre un projet de poulailler industriel de 30 000 poules pondeuses qui divise 40 hectares dans le Finistère Nord. Un collectif de citoyens, 40 hectares pour tous, et l'association Eau et Rivières de Bretagne s'inquiètent de l'installation de cette usine à eux sur un territoire fragile et déjà fortement impacté par le modèle agricole intensif breton qui s'accommode très bien du label plein air qui sera obligatoire pour les œufs coquilles en 2022. Ce qui ne signifie pas pour autant que les poules vont gambader toute la journée et picorer en toute liberté dans l'herbe verte. Il ne faut pas confondre promenade à l'air libre et liberté, ni agrobusiness et paysannerie.
Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition consacrée à l'actualité régionale. Un projet d'élevage de poules en plein air fait polémique à 40 hectares dans le Finistère. Des riverains ont déposé des recours. Une omelette géante était organisée ce dimanche en soutien au projet.
Or, monsieur le maire, en l'occurrence, nonobstant une délimitation contraire dans le plan local d'urbanisme de la commune de 40 hectares.
Alors nous voici devant le panneau planté sur le terrain du projet
d'exploitation avicole du Gaixœuf-Billan, permis de construire, accord du 18-05-2018, 18 mai donc. Nature des travaux, poulailler et silo aliments. Surface du terrain, 17 835 m2. Surface du plancher, 3 801 m2. Hauteur du sol, 6 m11 m. Donc là, on est devant le panneau. Derrière moi, il y a des mouettes et des goélands qui se mettent à l'abri du vent sur ces terres agricoles et maraîchères. Choux-fleurs, artichauts. Et derrière le panneau, en fond, on voit les premiers quartiers d'habitation et la benne Morlaix.
De surcroît, subsidiairement. Même si le projet était considéré comme étant en dehors des espaces proches du rivage, l'avis de la commission est entaché d'une erreur d'appréciation.
Comme un bruit qui court sur France Inter.
Pierre Chanteau, vous êtes membre du collectif 40 Tech pour tous. Alors qu'est-ce qui se passe ces jours-ci à 40 Tech ?
Alors qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que nous avons été mis devant le fait accompli. On va parler d'agro-industrie quand même. Il s'agit d'une exploitation avicole, ce n'est qu'un projet pour l'instant. Nous avons beaucoup de chance à 40 Tech. Nous avons encore des zones agricoles dans ce petit village avec un jeune exploitant qui veut s'installer, reprendre l'exploitation familiale. Donc c'est vraiment une chance. Voilà, nous aurions été de joie de l'accompagner. Seulement, le projet qu'il nous propose, quand même, il pose problème, parce que nous sommes quand même plusieurs quartiers de résidents sous les vents dominants de sa future exploitation. C'est quand même 30 000 poules pondeuses avec la construction d'un bâtiment de 3 800 m2, avec un gros décaissage de terres agricoles ultra fertiles. Et puis, ça s'appelle poules pondeuses plein air, mais enfin, je crois que c'est... Après toutes nos recherches, ce n'est qu'un argument publicitaire de la filière avicole qui est en pleine transition. Les poules devront avoir l'appellation plein air. Elles auront la possibilité de sortir sur un parcours. Alors, 30 000 poules, ça fait beaucoup d'effluents d'élevage. On nous dit que, de toute façon, ne pas s'inquiéter parce que les poules ne sortent quasiment pas. Alors, on se pose la question, alors pourquoi vous appelez ça du plein air ? Enfin, bon, c'est pas très cohérent. Ensuite, on pense qu'on va être impacté, comme c'est quand même à quelques centaines de mètres des premières d'habitation par des nuisances olfactives, des nuisances de parasites, des mouches, etc. Là, on nous répond que tout est prévu, qu'il y a plein de produits phytosanitaires, des larvicides, du pesticide, des fongicides, etc. Bon, ça reste malgré tout inquiétant, donc on va se renseigner sur d'autres exploitations qui ont pu être de ce type, et on nous dit, oulala, c'est un petit peu quand même délicat pour le voisinage, malgré tout. Donc on se pose des questions et puis surtout on voit comment ce genre d'exploitation est accordé. Il suffit d'une déclaration en préfecture sans étude d'impact environnemental. Il suffit de demander un permis de construire, notamment à 40 Tech. Ça n'a pas fait sujet d'un débat au conseil municipal qui était à peine au courant. Donc c'est une décision du maire, mais on est quand même cerné par des algues vertes. Est-ce qu'on n'est pas déjà fortement impacté par un modèle agricole qui demande réflexion maintenant ? Voilà.
Et tout ça avec une ferme dont les investissements dépassent le million d'euros et sont subventionnés entre 30 et 40% par de l'argent public, européen ou régional, pour un emploi. De qui se moque-t-on ? De qui se moque-t-on ?
Poulet, numéro 728120, élevé en plein air, je t'aime. Je pense à toi.
Esther Collet, avocate à la Cour, spécialiste en droit de l'urbanisme et droit public. Monsieur le maire, place Générale de Gaulle, 29 660, 40 Tech. Recours gracieux, le 10 juillet 2018. Monsieur le maire, je suis le conseil de différents occupants ou propriétaires de terrain sur la commune de 40 Tech. Mes clients entendent exercer un recours gracieux tendant au retrait de l'arrêté en date du 18 mai 2018 par lequel vous avez accordé un permis de construire au Gaixœuf-Billan pour la construction d'un poulailler sur le terrain composé de la parcelle C725 à 40 Tech.
Absolument, nous sommes en 2018. On peut réfléchir quand même à quelques chiffres. On peut en redonner. En 40 ans, plus de la moitié des animaux sauvages ont disparu. En France, 80% des insectes ont disparu. On est en France à 30% de la production alimentaire qui est gaspillée. Le 2 août, qui est le jour de l'année où l'humanité a épuisé les ressources renouvelables, en France, c'est le 5 mai. Alors là, on est un peu submergé, toujours dans l'actualité, dans la presse, par des mots qui font peur. Produits phytosanitaires, glyphosate, néonicotinoïdes, algues vertes, enfin pour ici. Et puis, il y a d'autres voix qui parlent d'agroécologie, de circuits courts, d'économie permacirculaire, de phytoépuration, de biométisme, de modèles agricoles responsables, voilà. Alors, nous ne sommes pas aujourd'hui à Carentec une voie d'opposition systématique, hein, mais des acteurs, comment je dirais, d'échange, de dialogue, de solidarité, voire de complémentarité, quoi, pour soutenir une transition agricole créatrice d'emplois. C'est aussi ça qui est important, qui soit responsable de l'environnement, de la biodiversité, et au final, garante de la qualité de notre alimentation et de la santé de nos enfants, voilà.
Tribunal administratif de Rennes. Requête introductive d'instance. Affaire, collectif Carentec pour tous, c/préfet29.
Marie-Catherine Lecoq, je suis à Haut-et-Rivière de Bretagne, donc le dossier de Carentec, c'est une reconversion, c'est quelqu'un qui faisait des légumes, puisque c'est la ceinture légumière, on est déjà dans le Léon, et là on est dans un processus de modernisation, et malheureusement ce n'est pas le seul dossier, parce qu'il y a d'autres dossiers de poulaillers industriels qui sont en train d'obtenir des permis de construire un peu partout. Et donc Carentec, ce projet est d'autant plus critiquable qu'il est dans une zone dont on sait qu'elle est très fragile du point de vue de la qualité de l'eau et qu'en plus, la baie de Morlaix, qui est un endroit superbe, mais très fragile sur le plan de l'environnement, est classée Natura 2000. Et donc, c'est d'autant moins compréhensible. Alors, le problème, c'est que 30 000 poules, c'est un chiffre magique parce qu'au-delà de 30 000 poules, vous avez l'obligation pour déposer un permis de construire, de faire une étude d'impact environnemental. Et donc ce projet, ce permis de construire, joue absolument avec les limites réglementaires.
Contre. Le récépissé de déclaration, délivré le 9 mars 2018. L'État représenté par le préfet du Finistère.
Cet endroit n'est pas beau, cet endroit est sublime. Des chapelets d'îles, de courants, de rochers, tout partout. Enfin, c'est absolument ahurissant de beauté.
Tout ce projet-là, qui va provoquer du ruissellement vers un ruisseau qui est déjà pointé comme étant en mauvais état, ne va faire qu'aggraver la situation. En particulier, les nitrates sont élevés. C'est un problème puisque ça contribue à l'eutrophisation, algues vertes en particulier. Et donc, nous avons choisi cette alarme qui est d'appeler l'attention du préfet et lui rappeler sa mission de défense de l'intérêt public et des biens communs. Et bon, sa réponse n'a pas été directe. Et oui, la qualité de l'eau n'est pas formidable.
Fait et procédure. Le 9 mars 2018, le préfet du Finistère a délivré le récépissé de déclaration numéro 8HMWLS2VX au GAEC-ZEUF-BIEN. La requête est bien fondée parce que la décision est entachée tant d'illégalité externe que d'illégalité interne.
Parce que nous sommes tous concernés par ces choix agricoles. C'est un modèle agricole qui a fonctionné, qui a été mis en place depuis les années 60 et qui est ultra productiviste. Et malheureusement, je pense que les agriculteurs sont aussi les premières victimes de ces choix qui privent en bout de souffle. Je pense qu'il y a d'autres façons de penser l'agriculture et c'est vraiment urgent. Voilà.
C'était comme un bruit qui court, là où ça se passe, là où ça coince. Retrouvez toutes les informations sur le site de l'émission à l'adresse franceinter.fr. Abonnez-vous au podcast et laissez-nous des messages sur les réseaux sociaux. Et nous, on se retrouve samedi prochain à 16h.